RFI.fr.
Culture vive, Yasmine Chouaki.
Culture vive, deuxième partie, avec déjà quelques paquets cadeaux au pied du sapin, si jamais vous en avez un, puisque vous, Elisabeth Le Quéré, vous nous emmenez à la Fondation Cartier, à Paris, transformée, mais alors je ne sais pas pourquoi, en palais de cristal.
Voilà, et la responsable, c'est la plasticienne sud-coréenne, Lee Bull.
À suivre. Avec vous, José Marignon, on peut et on écoutera du rock à la marge de la marge.
C'est justement un concert de rock à la prison des femmes à Rennes, la plus grande de France, organisée donc par le Festival Transmusical de Rennes, qui s'est achevé ce week-end. Reportage
cool,
sur
cool,
un
José.
Moment d'évasion rare pour des femmes condamnées à de longues peines de prison.
Et puis vous, Muriel, vous avez un petit côté penché sur un coin de cheminée. Qu'est-ce que vous nous mijotez ?
Eh oui, un coin de cheminée, on y lit des contes, bien sûr, Yasmine. Des contes très bien écrits à la nouvelle maison d'édition Alzaban.
Il était un âge inconnu des hommes, où la Terre ne formait encore qu'une planète de gaz, sans roche, ni mer, sans noyau, ni pesanteur.
Sortez les tapis, la lampe à huile s'il vous plaît, et allongez-vous, la langue du conte va déplier son ciel d'histoire. Et là on vient d'avoir un peu l'oreille caressée par un extrait de L'Oiseau de la Lune, publié Muriel, par donc une toute nouvelle maison d'édition, les éditions Alzaban, à destination de la jeunesse. Mais moi j'ai quand même la sensation que c'est une maison qui place la barre poétique et peut-être philosophique un peu haut. Car en exergue de ces livres de contes, j'ai trouvé des citations d'Aristote par exemple, « La fin de l'enfance, c'est l'homme », ou encore de Christophe Colomb qui disait « On ne va jamais si loin que lorsqu'on ne sait pas où l'on va ». C'est un peu la mission de cette maison d'édition, voyager.
Absolument.
Et faire réfléchir.
Et oui, ça ne fait pas peur à Jean-Sébastien Blanc, qui est en même temps éditeur et auteur. Il nous livre une très belle littérature pour enfants, une littérature très bien écrite. Le titre Alzaban est suivi d'ailleurs par un autre titre, Histoire d'en rêver, des histoires au pluriel, qui nous emmène dans des mondes farfelus, sortis tout droit des rêves, comme cette histoire qui s'intitule L'un et l'autre, qui est l'histoire d'un marronnier et d'un châtaignier, vous voyez la couverture, là, Yasmine, condamnés, évidemment, à passer leur existence face à face, puisqu'ils ne bougent pas, dans une forêt, bien qu'ils se détestent, avec toutefois un petit espoir que l'homme ou la tempête les débarrasse de leur voisin détesté. Alors, L'Oiseau de la Lune, regardez ses dessins éthérés, avec des oiseaux fantastiques comme sortis des peintures de Jérôme Bosch, le style cauchemardesque en moins. Quant au livre qui vient de sortir, L'Oiseau des Steppes, on entend une musique qui va très bien avec, puisqu'il nous emporte loin dans le temps et dans l'espace. On est dans l'Asie, au fin fond d'un royaume isolé du monde, d'où part Paladjan, encore un mot qui sonne un peu arabe comme Alzaban, pour découvrir les empires du couchant et du levant. 30 années de voyage et un récit exaltant qui nous fait parcourir terre, mer et cité, les merveilles du monde, mais aussi malheureusement ces guerres.
Vous avez un petit côté Scheherazade, Muriel. Donc en tout cas des contes dans la bonne vieille tradition, avec les rituels.
Oui, c'est une Scheherazade, attention, contemporaine, oui. Puisque Jean-Sébastien Blanc, qui avoue d'ailleurs son attachement à la tradition des mille et une nuits, nous emporte quand même dans des contes contemporains.
On l'écoute.
À la différence des Mille et Une Nuits, ce sont des contes contemporains qui sont souvent des paraboles sur le monde actuel, sur la vie aussi, sur la vie de tous les jours. Mais on y insuffle beaucoup de merveilleux, beaucoup de fantastique et beaucoup de poésie.
Bah, du fantastique déjà dans ce titre, L'Oiseau de la Lune.
Oui, L'Oiseau de la Lune, parce que on peut y voir beaucoup de ressemblances avec la vie aussi. Hein. On a tous envie de décrocher la Lune. Hein. Parfois, on a envie d'atteindre notre rêve, d'accomplir nos rêves. Et Alzaban, eh bien, c'est un oiseau, durant les temps primitifs, qui va décider de devenir l'oiseau du ciel de la Lune et qui va traverser la Terre et le cosmos pour devenir cet oiseau-là, cet oiseau unique, et il va y parvenir.
Le ciel est très mis à contribution, puisqu'un autre titre, c'est Un vers sous les étoiles.
Absolument. Alors, le ciel et même les oiseaux, une figure et un personnage qui va être récurrent dans tous les contes. Donc on retrouve beaucoup l'image du ciel, des étoiles. Et effectivement, dans un ver sous les étoiles, on voit ce petit ver de terre qui était habitué à vivre dans les profondeurs et qui va se mettre à rêver non seulement au monde extérieur, mais aux étoiles.
Oui, alors si on n'a pas envie de finir comme le petit ver, il faut manger du papier, lire tous les contes des éditions Azaban, car tout fait envie dans ces petits livres, les illustrations,
oui, ce sont des histoires. Oui, absolument, ce sont de très jolis petits ouvrages, quasi carrés, la couverture cartonnée. Les illustrateurs viennent tous d'Argentine, un pays qui possède une école d'illustrateurs réputée. Mmh. Alors, des dessinateurs aussi très indépendants, qui n'entendent pas du tout se faire dicter quoi que ce soit par l'auteur, ce qui donne une grande richesse aux propos. En règle générale, les dessins occupent des pages entières et le récit vient s'inscrire à l'intérieur des illustrations. Regardez dans Un vers sous les étoiles comment l'illustratrice Maria Licciardo illumine l'histoire de ses couleurs ocre et orangées. Son vert de terre est tantôt rouge, tantôt bleu, tantôt vert. Il nous amène dans un monde souterrain extraordinairement gai, dans l'Oiseau des steppes.
Graphisme enfantin, pardon.
Graphisme assez naïf, je dirais. Je ne sais pas si la naïve naïveté est toujours enfantine, mais en tout cas c'est assez naïf, avec des dessins assez épurés. Le dernier en date, c'est l'Oiseau des steppes, donc Rodrigo Luane est lui dans une illustration plus classique, avec toutes les références à l'Orient, le désert, les chameaux, les bédouins, les villes coiffées de coupoles. C'est peut-être un monde un peu moins inventif, mais c'est de toute beauté.
Alors ce qui marche toujours auprès de toutes les oreilles, mais peut-être plus spécifiquement auprès de l'oreille enfantine, c'est quand même la morale à la fin de l'histoire.
Ce qu'on essaie de dire aux enfants, il faut absolument accomplir ses rêves, tout faire pour les accomplir, s'obstiner, s'affranchir de ceux qui vous disent non, reste à ta place, reste là où tu es. Il faut faire ça, mais en même temps, il faut faire attention à ses capacités, il faut être prudent, il faut quand même faire attention à ce qu'on fait et ne pas tomber dans une sorte d'euphorie de la découverte. Le petit ver qui va découvrir le monde extérieur va apprendre à ses dépens que l'ivresse des non des profondeurs mais du monde extérieur, ça peut l'atteindre et puis ça peut le perdre aussi.
Donc à lire au coin de tous les feux, Un vers sous les étoiles, L'oiseau de la lune ou L'oiseau des steppes, des contes édités aux éditions Azaban. Merci Muriel. Ambiance carcérale, José Marinho, car dans le cadre de la 29e édition du Festival Transmusical de Rennes, qui s'est terminé à l'aube ce dimanche, d'ailleurs faites voir vos yeux,
oui, ça va.
C'est bien ce que je pensais, et bien en marge, le festival organise des concerts à l'intérieur des prisons. C'est pas totalement nouveau, mais...
C'est toujours un événement, voilà. Évidemment. Donc.
Et vous vous êtes rendu dans le centre pénitentiaire des femmes, centre de Rennes. Alors, ça ressemble à quoi?
Alors, déjà, le centre pénitentiaire des femmes de Rennes, c'est une immense bâtisse de 90 000 mètres carrés. Il est érigé carrément en centre-ville, juste derrière la très moderne gare du TGV de Rennes. Je l'avais d'ailleurs jamais aperçue auparavant. Elle ressemble bizarrement à un couvent médiéval. Et pourtant, c'est une vraie prison. Depuis, vous savez depuis combien de temps?
Non, dites-moi.
Deux siècles. Mmh. Donc, une fois passé tous les contrôles à l'entrée de la prison, vous arrivez directement sur une cour où il y a un petit jardin qui contraste avec la rugosité de l'établissement. Et puis, tout cela est très étrange. Il y a un silence de plomb, c'est très inquiétant. Évidemment, la pression s'installe à chaque pas dans cet endroit lugubre, effacé par les murs sans couleur. Et les concerts en prison, croyez-moi, c'est un vrai défi, puisque les musiciens sont confrontés à l'état d'esprit dépressif des détenus. Le groupe folk rock britannique Indigo Moss a réussi à animer un petit peu les esprits. La cinquantaine de femmes présentes de 40 ans et plus a quand même s'est bien défoulée sur des vieux tubes de rock and roll. Donc
quand,
pendant ce moment,
vous dites confrontés à l'état dépressif des détenus, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que c'est des moments très graves. C'est des gens qui sont en prison pour de longues peines.
Mais il y a de l'agressivité ou...
Ça, je ne l'ai pas constaté. Vous savez, ces visites sont toujours très contrôlées.
Donc, reportage dans ce centre pénitentiaire de Rennes avec comme premier guide Jean-Louis Brossard, programmateur des Transmusicales, qui est aussi à l'origine de ce projet.
C'est comme un concert en fin de compte, avec des gens qui sont en prison. Mais c'est l'écran, c'est le public, qui est un public d'ailleurs, le vit à sa façon, quoi. Ce qui est bien après, c'est qu'il y a une rencontre aussi. On boit un verre, il y a une rencontre avec l'artiste, donc on peut parler, discuter, et tu sens que ça leur fait vraiment plaisir, quoi. Et puis c'est amené toujours un espace de liberté, si tu veux. Je sais pas, même si elles ont la télévision dans les chambres, je pense avec le câble et tout ça, mais là t'amènes vraiment des gens d'un autre monde, quoi.
Michel Bezon, je suis directeur du centre pénitentiaire Femmes de Rennes, seul établissement pour peine, longue peine à l'échelon national. Actuellement, nous avons 298 femmes qui sont incarcérées, avec des quantums de peine pour la plupart d'entre elles, 20 ans, 25 ans, 30 ans, et la réclusion criminelle à perpétuité. C'est une prison qui a été construite au 19e siècle, qui a été une capacité de 1000 places. La plupart des dames qui sont ici incarcérées sont pour des faits souvent dans le milieu familial. C'est pour ça que les quantums de peine sont relativement longs. Et l'histoire de cette maison est très axée sur la confiance que l'on accorde à la personne détenue. Elles ont une liberté de mouvement dans le cadre du centre de détention. Elles se gèrent elles-mêmes leurs activités. Nous avons à peu près un ou deux concerts par mois. De façon à ce que la culture rentre en prison, c'est aussi un des esprits moteurs de cette maison.
Ils attendent qu'on éteigne les lumières, il faut aller les prévenir.
Au transmusical, en fait, à l'action culturelle, et je suis donc en charge du projet et des relations avec le milieu pénitentiaire. La difficulté, en fait, c'est plutôt sur des délais de transmission des informations, parce qu'on doit transmettre les identités de toutes les personnes qui viennent, que ce soit de l'organisation, des artistes, pour contrôler les casiers judiciaires, pour vérifier que les personnes ont le droit d'entrer. On a déjà proposé à des artistes qui disaient que l'idée était très intéressante, mais qui ne se sentaient pas de le faire. On le comprend, c'est mieux dans ces cas-là d'aller vers des artistes qui ont pleinement envie. Et ça a été le cas pour Indy Gomos, par exemple, ici, qui a tout de suite dit oui, a été très enthousiaste dès le départ.
C'est une chose qu'il a voulu faire pendant beaucoup de temps. Ça, c'est la raison principale. C'est l'un des meilleures audiences qu'on a vues ici, en France, en Angleterre, en Angleterre. C'est très respecté, c'est très formidable.
Catherine Joaquin, je m'occupe donc des actions culturelles et d'insertion pour les prisons de Rennes. La venue d'un concert comme les Transmusicales, c'est aussi de pouvoir associer un festival international avec la programmation qu'on propose au public, donc de femmes incarcérées de Rennes. Si nous on calait les choses, on piocherait dans le tissu rennais ou local, alors que là ça permet d'avoir un groupe anglais par exemple, où on a eu des Chinois il y a 2 ans. Donc voilà, ça permet aussi vraiment d'avoir plus de propositions et d'avoir aussi des groupes vraiment de qualité et de la musique actuelle, quoi, enfin de la scène actuelle. C'est vraiment du ponctuel, donc elles savourent le moment présent, mais ça change pas leur vie en détention, si ce n'est une bonne après-midi, parce qu'il y a quand même le travail, la formation, mais voilà, après on essaye d'être cohérent, mais du country rock folk blues, on n'en a pas eu depuis au moins 5 ans, donc c'est très bien.
Je ferme les yeux quand je danse et quand j'écoute la musique, donc ça me permet de m'évader, d'être auprès de mon ami, mon amoureux et ailleurs. En tous les cas, plus dans la prison. Voilà, donc plus ça dure et mieux c'est, et si c'était encore plus souvent, ça serait génial.
Quand on a des coups de blues et tout ça, ça va pas, ça fait du bien, quoi. Parce que je suis pas toute jeune, donc ça m'a rappelé ma jeunesse. Quand je sortais dans les balles au Pays Basque, voilà.
Ce que j'ai vécu aujourd'hui, je n'oublierai jamais de ma vie.
C'est un beau cadeau.
Et oui, la musique et ses vertus. C'est un reportage qui ressemble aussi à une expérience troublante pour vous, avec tous ces gens que vous avez croisés.
Oui, c'est très émouvant parce que finalement, par exemple, les réactions de la première jeune femme, comme dans la deuxième, c'est des messages codés qui s'adressent à leur famille. C'est des femmes, non seulement qui arrivent de toute la France, mais aussi des downtown qui sont coupées par les murs, par la distance, la géographie sans nouvelles. Donc, le bol d'air n'a duré que 60 minutes et pendant ce temps, elles sont devenues des femmes heureuses avec des larmes. Voilà, c'est comme ça. C'était un moment très émouvant et grave. Ensuite, elles sont retournées dans leur petite cellule de 7 mètres carrés, là où elles mènent un combat quotidien contre l'attente pour essayer de survivre, donc en prison, attente d'une lettre, attente d'un téléviseur, toujours l'attente, en attendant la liberté, évidemment.
Merci, José Marinho.
Jibul est une des plus importantes artistes contemporaines coréennes, mais on l'a déjà vu depuis 10 ans dans les plus grandes manifestations d'art contemporain international, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis qu'en Asie.
On Every New Shadow, c'est le titre de l'exposition de Mademoiselle Li Bull que l'on peut voir à la Fondation Cartier à Paris. Et le commissaire Grazia Quaroni a l'air sous le charme de son travail, Elisabeth Le Quéret.
Mais elle peut être sous le charme parce que c'est une exposition absolument magnifique. En fait, ce sont 12 œuvres de cet artiste, donc Li Bull, qui ressemblent à des lustres géants dont vous disiez tout à l'heure, Yasmine, de cristal. En fait, ce sont des œuvres à base de fer et de métal, de verre. Et en fait, c'est un peu un test de Rorschach, c'est-à-dire que le spectateur y voit un peu ce qu'il a envie d'y voir. Alors, personnellement, j'y ai vu des toiles d'araignées géantes ou des vaisseaux fantômes ou même parfois des corps de femmes. Alors, je disais tout à l'heure que c'était plastiquement très abouti. On peut aussi dire que c'est une exposition en 5 dimensions, comme l'explique la commissaire de l'exposition.
Ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce projet pour la Fondation Cartier, c'est la décision de Li Bull de lier l'ensemble des sculptures et donc d'unifier les espaces par un seul miroir qui, entouré des murs en verre, bien évidemment, devient un capteur de lumière extraordinaire, nous renvoie les sculptures dans tous les sens, même la tête en bas, et nous intègre le visiteur complètement dans l'exposition. Donc je crois que ce geste a véritablement pris en compte l'architecture, y a intégré les sculptures et le visiteur, et donc fait que le projet devient un projet global, sans compter que toute cette lumière, tout ce jardin qui rentre, toutes ces images renversées donnent une atmosphère féerique absolument extraordinaire et nous font découvrir une nouvelle facette du bâtiment parce qu'on voit carrément le bâtiment à l'envers.
Alors, je dois vous avouer, Elisabeth, que jusqu'à vous, je ne connaissais pas du tout Li Bull. Est-ce que c'est grave, docteur? Est-ce que cette artiste a du kilométrage déjà? C'est-à-dire, est-ce qu'elle a une carrière derrière elle?
Non, en fait, c'est sa grande exposition, sa plus grande exposition parisienne à ce jour. Elle a déjà été exposée dans beaucoup de capitales du monde. En fait, Li Bull, c'est quelqu'un, comme disait Grazia Quaroni, la commissaire, c'est quelqu'un qui vient de l'architecture. Et je pense que ça se sent, cette formation, dans la façon dont elle investit les espaces, exemplairement l'espace de la Fondation Cartier. Donc c'est quelqu'un qui aussi s'intéresse beaucoup à la représentation des corps. Donc par exemple, on dit qu'au début de sa carrière, elle se promenait dans les rues de Séoul, vêtue de combinaisons qui étaient très inspirées de la littérature de science-fiction. Ensuite, elle a fait des sculptures qui s'intitulaient Cyborg, avec des tentacules très angoissants. Et effectivement, il est très difficile de disjoindre tout ça de la culture sud-coréenne.
Merci Elisabeth. Donc Li Bull et son expo en Every New Shadow est à voir à la Fondation Cartier jusqu'au 27 janvier. Merci à tous. Merci à Florence Ponce, à Benjamin Availlou pour la réalisation et à Jean Dufat pour la technique. On se retrouve demain, même endroit, même heure.